Monsieur.
Quelle heure?
9h30, monsieur Hugo.
Le premier acte devrait être fini.
Le tout Paris est là. Excepté Balzac.
Il a encore déménagé. Du côté de Sèvres.
En ce qui me concerne, je pense que la boue et le purin conviennent infiniment mieux à sa personnalité que les parquets cirés de nos salons parisiens. Avec son espèce de liquette et ses cheveux crasseux et son style bâclé, je trouve qu'il donne des écrivains une image de saleté, de débraillé qui, au bout du compte, rejaillit sur nous
toi
tous.
Toi qui a été chirurgien de marine.
Ça n'a rien à voir.
Ça peut pas faire de mal.
Les matelots que je soignais étaient des combattants.
Balzac aussi se bat.
Diantre. Mais où est l'ennemi?
Il est partout. Il s'appelle l'ignorance. Il s'appelle la bêtise. Il s'appelle l'indifférence. C'est pour lutter contre ça que les hommes ont inventé l'écriture.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
En 1821, dans les premiers jours du mois de mai, David et Lucien s'assirent dans la cour, sous un berceau d'où leurs yeux pouvaient voir quiconque entrerait dans l'atelier. Les rayons du soleil qui se jouaient dans les pampres de la treille caressèrent les deux poètes en les enveloppant de sa lumière comme d'une auréole. David avait les formes que donne la nature aux êtres destinés à de grandes luttes, éclatantes ou secrètes. Son large buste était flanqué par de fortes épaules. Son visage brun de ton, coloré, gras, supporté par un gros cou, enveloppé d'une abondante forêt de cheveux noirs, ressemblait au premier abord à celui des chanoines chantés par Boileau. Mais un second examen nous révélait, dans les yeux surtout, le feu continu d'un unique amour, la sagacité du penseur, l'ardente mélancolie d'un esprit qui pouvait embrasser les deux extrémités de l'horizon en en pénétrant toutes les sinuosités. Auprès de lui, Lucien se tenait dans la pose gracieuse trouvée par les sculpteurs pour le Bacchus indien. Son visage avait la distinction des lignes de la beauté antique. C'était un front et un nez grec, et des yeux noirs pleins d'amour. Le long des joues brillait un duvet soyeux dont la couleur s'harmonisait à celle d'une blonde chevelure naturellement bouclée. Une incomparable noblesse était empreinte dans son menton court, relevé sans brusquerie. Le sourire des anges tristes errait sur ses lèvres de corail rehaussées par de belles dents. Depuis environ 3 ans, les deux amis avaient confondu leur destinée si brillante dans l'avenir. Ils lisaient les grandes œuvres de Schiller, de Goethe, de Lord Byron, de Walter Scott, de Lamartine. Ils s'échauffaient à ces grands foyers. Ils s'essayaient en des œuvres avortées ou prises, quittées et reprises avec ardeur. Ils travaillaient continuellement, sans lasser les inépuisables forces de la jeunesse. Également pauvres, mais dévorés par l'amour de l'art et de la science, ils oubliaient la misère présente en s'occupant à jeter les fondements de leur renommée. Lucien, « sais-tu ce que je viens de recevoir de Paris ?» dit David en tirant de sa poche un petit volume in 18. « Écoute. » David lut, comme savent lire les poètes, l'idylle d'André de Chénier. Et quand il tomba sur le fragment « S'il n'en point de bonheur, en est-il sur la terre ?» il baisa le livre et les deux amis pleurèrent. 5 heures sonnèrent, mais ils n'avaient ni faim ni soif. La vie leur était un rêve d'or. Et ils avaient tous les trésors de la terre à leurs pieds. C'était un extrait des Illusions perdues d'Honoré de Balzac, un roman publié en 1843 et qui fait évidemment partie de l'immense ensemble de la comédie humaine. Ce livre est, selon l'auteur, l'œuvre capitale dans l'œuvre. Il y est question d'ambition et de gloire, mais aussi des coulisses de la fabrique littéraire. Deux amis d'enfance nés à Angoulême en sont les héros principaux, Lucien Chardon et David Séchard. Imprégnés de belles lettres, pures et sans fortune, ces deux jeunes hommes que rien ne séparait vont prendre des chemins opposés. David va tenter sa chance dans l'imprimerie et l'édition, tandis que Lucien veut s'accomplir à Paris et se faire un nom en littérature. L'histoire de Lucien est un peu celle de Balzac, celle d'un provincial montant dans la capitale à l'âge de 20 ans, des projets plein la tête. Mais rien ne se passe comme prévu. Sans relation ni argent, le jeune poète va abandonner ses manuscrits pour le journalisme et ses manigances. Paris, lieu fantasmé, devient la ville des illusions perdues, un monde qui tue les désirs de jeunesse. Je vous propose ce soir de découvrir ce terrible roman d'apprentissage, l'un des livres préférés de Marcel Proust, que Balzac avait dédicacé à Victor Hugo. L'enfant sublime du siècle était à ses yeux le seul qui avait eu le courage, contrairement au héros du livre, de ne jamais renoncer à ses rêves. À Angoulême, donc, les deux amis vivent dans le quartier populaire de Loumont. David a repris l'atelier d'imprimerie de son père et a pour ambition de révolutionner l'industrie de la papeterie. Son ami Lucien travaille en tant que prote pour lui, mais nourrit d'autres rêves. Il veut être un écrivain reconnu et admiré. La réalité est tout autre. Pour l'heure, il vit avec sa mère et sa sœur dans la précarité. Son nom arrive par chance dans l'oreille d'une séduisante aristocrate, Madame de Bargeton, qui l'invite à venir se présenter. Épouse d'un vieux notable de la ville, elle est conseillée par le baron Sixte du Châtelet, jaloux de l'avoir courtisée par de jeunes hommes. Voici donc Lucien entrant dans le salon de Madame de Bargeton. Le poète aperçut Madame de Bargeton assise sur un canapé à petit matelas piqué. La reine ne se leva point. Elle se tortilla fort agréablement sur son siège en souriant au poète, que ce trémoussement serpentin émut beaucoup. Il le trouva distingué. L'excessive beauté de Lucien, la timidité de ses manières, sa voix, tout en lui saisit Madame de Bargeton. Le poète était déjà la poésie. Le jeune homme examina par de discrètes œillades cette femme qui lui parut en harmonie avec son renom. Elle portait, suivant une mode nouvelle, un béret tailladé en velours noir. Il s'en échappait une folle chevelure d'un blond rouge, dorée à la lumière, ardente au contour des boucles. La noble dame avait le teint éclatant par lequel une femme rachète les prétendus inconvénients de cette fauve couleur. De ses doigts effilés et soignés, mais un peu secs, elle fit au jeune homme un geste amical pour lui indiquer la chaise qui était près d'elle. Lucien s'aperçut alors qu'ils étaient seuls. La conversation de Madame de Bargeton enivra le poète de Loumont. Les 3 heures passées près d'elle furent pour lui un de ces rêves que l'on voudrait rendre éternels. Il trouva cette femme plutôt maigrie que maigre, amoureuse sans amour, maladive malgré sa force. Ses défauts, que ses manières exagéraient, lui plurent, car les jeunes gens commencent par aimer l'exagération, ce mensonge des belles âmes. L'entrain de cette exaltation féminine, la verve de ces phrases un peu vieilles, mais qui lui parurent neuves, le fascinèrent d'autant mieux qu'il voulait trouver tout bien. Il n'avait point apporté de poésie à lire, mais il n'en fut pas question. Il avait oublié ses vers pour avoir le droit de revenir. Et Madame de Bargeton ne lui en avait point parlé pour l'engager à lui faire la lecture un autre jour. N'était-ce pas une première entente ? Monsieur du Châtelet fut mécontent de cette réception. Il aperçut tardivement un rival dans ce beau jeune homme qu'il reconduisit jusqu'au détour de la première rampe de Beaulieu dans le dessein de le soumettre à sa diplomatie. Lucien ne fut pas médiocrement étonné d'entendre cet homme se vantant de l'avoir introduit en lui donnant à ce titre des conseils. Depuis cette soirée, nonobstant le vieux fat, malgré ses menaces et sa contenance de spadassin bourgeois, Lucien était revenu chez Madame de Bargeton. Il se familiarisa bientôt avec ce qui lui avait paru d'abord une énorme faveur et vint la voir de plus en plus souvent. Madame de Bargeton, surnommée par Lucien Naïs, fut aimée comme tout jeune homme aime la première femme qui le flatte, car Naïs pronostiquait un grand avenir et une gloire immense à Lucien. Non seulement elle l'exaltait outre mesure, mais elle le représentait comme un enfant sans fortune qu'elle voulait placer. Elle le rapetissait pour le garder. Elle se disait que ce serait une folie d'aimer un jeune homme de 20 ans qui, par sa position, était déjà si loin d'elle. Ses familiarités étaient capricieusement démenties par les fiertés que lui inspiraient ses scrupules. Elle se montrait tour à tour altière et protectrice, tendre et flatteuse. D'abord intimidé par le haut rang de cette femme, Lucien eut donc toutes les terreurs, les espoirs et les désespérances qui martèlent le premier amour. Pendant 2 mois, il vit en elle une bienfaitrice qui allait s'occuper de lui maternellement. Mais les confidences commencèrent. Madame de Bargeton appela son poète « cher Lucien », puis « cher » tout court. Un soir, Lucien étant entré pendant que Louise contemplait un portrait qu'elle serra promptement, il voulut le voir. Louise montra le portrait du jeune Cantecroix et raconta, non sans larmes, la douloureuse histoire de ses amours. S'essayait-elle à quelque infidélité envers sa mort, ou avait-elle inventé de faire à Lucien un rival de ce portrait ? Lucien était trop jeune pour analyser sa maîtresse. « Je ne mourrai pas, moi, je vivrai pour vous », dit audacieusement le jeune homme qui jeta sur Louise un regard où se peignait une passion arrivée à terme. Bientôt, Louise réveilla chez Lucien la soif des distinctions que la froide raison de David avait calmée. Elle lui montra la haute société comme le seul théâtre sur lequel il devait se tenir. Lucien mordit à la pomme du luxe aristocratique. et il jura d'apporter aux pieds de sa dame une couronne, fût-elle ensanglantée. Il la conquérerait à tout prix. L'ambition se mêlait à son amour. Il aimait et voulait s'élever. Double désir bien naturel chez les jeunes gens qui ont un cœur à satisfaire et l'indigence à combattre. Louise a convaincu Lucien qu'avec son talent, il devait tenter sa chance à Paris. Elle lui promet de le présenter à la marquise d'Espard, qui a toutes ses entrées dans le milieu littéraire. Et elle le convainc aussi de changer de nom. Chardon ne le mènera nulle part. Désormais, il s'appellera Lucien de Rubempré. Ravi que quelqu'un croie en lui, Lucien saisit sa chance et décide de partir. Son ami David l'encourage dans ce projet. Depuis quelques mois, le jeune imprimeur est tombé sous le charme de la sœur de Lucien, Ève, une jeune fille loyale qui sacrifierait tout pour la gloire de son frère. Le mariage des amants est prévu pour bientôt, mais Louise a décidé de partir au plus vite. Lucien doit la suivre et ne pourra pas assister à la cérémonie. David est compréhensif. Lui qui avait déjà mis toutes ses maigres économies pour aménager un appartement dédié à Lucien, écoute son ami lui demander de l'argent pour son séjour parisien. Ne me jugez pas mal, mes anges aimés. Il prit Ève et David, les embrassa, les rapprocha de lui, les serra en disant « Attendez les résultats et vous saurez combien je vous aime. David, à quoi servirait notre hauteur de pensée si elle ne nous permettait pas de faire abstraction des petites cérémonies dans lesquelles les lois entortillent les sentiments ? Malgré la distance, mon âme ne sera-t-elle pas ici ? La pensée ne nous réunira-t-elle pas ? N'ai-je pas une destinée à accomplir ? Les libraires viendront-ils chercher ici mes poèmes ? Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours faire ce que je fais aujourd'hui ? Puis-je jamais rencontrer des circonstances plus favorables ? N'est-ce pas toute ma fortune que d'entrer pour mon début à Paris dans le salon de la marquise d'Espard ? Il a raison, dit Ève. Vous-même, ne me disiez-vous pas qu'il devait aller promptement à Paris ? David prit Ève par la main, l'emmena dans cet étroit cabinet où elle dormait depuis 7 années et lui dit à l'oreille « Écoute, mon Ève adorée, nous allons mal commencer la vie. Mes dépenses ont absorbé tout ce que je possédais. Il ne me reste que 2 000 francs. Donner cette somme à ton frère, c'est donner notre pain, compromettre notre tranquillité. Si j'étais seul, je sais ce que je ferais. Mais nous sommes deux. Décide. » Ève, éperdue, se jeta dans les bras de son amant, le baisa tendrement et lui dit à l'oreille tout en pleurs « Fais comme si tu étais seul. Je travaillerai pour gagner cette somme. » David laissa Ève abattue et revint trouver Lucien. « Ne te chagrine pas, lui dit-il, tu auras tes 2 000 francs. » Quand les deux amis remontèrent, ils surprirent Ève et sa mère à genoux qui priaient Dieu. Si elle savait combien d'espérance le retour devait réaliser, elle sentait en ce moment tout ce qu'elle perdait dans cet adieu, car elle trouvait le bonheur à venir payer trop cher une absence qui allait briser leur vie. « Si jamais tu oubliais cette scène, dit David à l'oreille de Lucien, tu serais le dernier des hommes. » L'imprimeur jugea sans doute ces graves paroles nécessaires. L'influence de Madame de Bargeton ne l'épouvantait pas moins que la funeste mobilité de caractère qui pouvait tout aussi bien jeter Lucien dans une mauvaise comme dans une bonne voie. Ève eut bientôt fait le paquet de Lucien. Il emportait peu de choses. Il garda sur lui sa meilleure redingote, son meilleur gilet et l'une de ses 2 chemises fines. Tout son linge, son fameux habit, ses effets et ses manuscrits formèrent un si mince paquet que pour le cacher au regard de Madame de Bargeton, David proposa de l'envoyer par la diligence à son correspondant, un marchand de papier, auquel il écrirait de le tenir à la disposition de Lucien. Lucien partit le lendemain au petit jour, accompagné de David qui s'était procuré un cabriolet et un cheval. Les amis se rendirent à Marsac, puis allèrent au-delà de Mâles attendre Madame de Bargeton qui arriva vers le matin. En voyant la vieille calèche sexagénaire qu'il avait tant de fois regardée sous la remise, Lucien éprouva l'une des plus vives émotions de sa vie. Il se jeta dans les bras de David qui lui dit « Dieu veuille que ce soit pour ton bien ». L'imprimeur remonta dans son méchant cabriolet et disparut, le cœur serré, car il avait d'horribles pressentiments sur les destinées de Lucien à Paris.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Je sème les souvenirs que j'aime, toute seule ou en tandem, mes années de bohème. J'ose faire d'un lit les anges, je suis illusionniste. J'oublie que tu me manques, hélas. Combien les années passent, je ne suis pas un clown triste.
Deuxième partie du roman commence. Lucien devient un grand homme de province à Paris. Dans la capitale, il se rend vite compte que Louise a oublié les promesses qu'elle lui avait faites à Angoulême. Les 2000 francs que David lui a donnés avant son départ sont dépensés en moins d'une journée en frais d'hôtel et de restaurant. Pris dans le tourbillon parisien, Lucien est assailli de doutes. Louise le néglige violemment, craignant de se montrer aux côtés d'un provincial. Un soir, dans une loge de l'opéra, Lucien fait l'expérience de la solitude. N'ayant ni les codes vestimentaires, ni l'aisance de la conversation, il est moqué par le beau monde et scruté comme une bête curieuse. Meurtri par cette soirée, il ne perd pas espoir et décide de tout faire pour s'intégrer dans le microcosme parisien. Il s'endette pour s'acheter de nouveaux habits et continue d'aller rendre visite à Louise qui, un soir, feint d'être malade pour ne pas lui ouvrir. Ils étaient pourtant invités chez la fameuse marquise d'Espard. Déçu, Lucien déambule seul dans la ville, mais à sa plus grande surprise, il croise peu de temps après Louise et la marquise, très en forme, dans une calèche. La calèche passa. La rage, le désir de la vengeance s'emparèrent de cet homme dédaigné. S'il avait tenu Madame de Bargeton, il l'aurait égorgé. Mon Dieu, de l'or à tout prix, se disait Lucien. L'or est la seule puissance devant laquelle ce monde s'agenouille. Non, lui cria sa conscience, mais la gloire. Et la gloire, c'est le travail. Du travail, c'est le mot de David. Mon Dieu, pourquoi suis-je ici? Mais je triompherai. Je passerai dans cette avenue en calèche à chasseurs. J'aurai des marquises d'Espard. En lançant ces paroles enragées, il dînait chez Urbain pour 40 sous. Le lendemain à 9h, il alla chez Louise dans l'intention de lui reprocher sa barbarie. Non seulement Madame de Bargeton n'y était pas pour lui, mais encore le portier ne le laissa pas monter. Il resta dans la rue, faisant le guet jusqu'à midi. À midi, Duchâtelet sortit de chez Madame de Bargeton, vit le poète du coin de l'œil et l'évita. Lucien, piqué au vif, poursuivit son rival. Duchâtelet, se sentant serré, se retourna et salua dans l'intention évidente d'aller au large après cette politesse. « De grâce, monsieur, dit Lucien, Accordez-moi une seconde, j'ai deux mots à vous dire. Vous m'avez témoigné de l'amitié. Je l'invoque pour vous demander le plus léger des services. Vous sortez de chez Madame de Bargeton. Expliquez-moi la cause de ma disgrâce auprès d'elle et de Madame d'Espard. Monsieur Chardon, répondit du Châtelet avec une fausse bonhomie, savez-vous pourquoi ces dames vous ont quitté à l'opéra ? Non, dit le pauvre poète. Eh bien, vous avez été desservi dès votre début par monsieur de Rastignac. Le jeune dandy, questionné sur vous, a purement et simplement dit que vous vous nommiez monsieur Chardon et non monsieur de Rubempré, que votre mère gardait les femmes en couche, que votre père était en son vivant apothicaire à Loumeau, faubourg d'Angoulême, que votre sœur allait épouser un imprimeur nommé Séchard. Voilà le monde. Mettez-vous en vue, il vous discute. Monsieur de Marsay est venu rire de vous avec Madame d'Espard, et aussitôt ces deux dames se sont enfuies en se croyant compromises auprès de vous. N'essayez pas d'aller chez l'une ou chez l'autre. Vous avez du génie. Tâchez de prendre votre revanche. Le monde vous dédaigne ? Dédaignez le monde. Réfugiez-vous dans une mansarde. Faites-y des chefs-d'œuvre. Saisissez un pouvoir quelconque et vous verrez le monde à vos pieds. Vous lui rendrez alors les meurtrissures qu'il vous aura faites là où il vous les aura faites. Quant à Madame de Bargeton, elle vous a écrit, renvoyez-lui toutes ses lettres. Elle sera sensible à ce procédé de gentilhomme. Plus tard, si vous avez besoin d'elle, elle ne vous sera pas hostile. Lucien était si morne, si pâle, si défait, qu'il ne rendit pas au vieux beau, rajeuni par l'atmosphère parisienne, le salut sèchement poli qu'il reçut de lui. Il revint à son hôtel et il espéra dans sa destinée. Il rassembla toutes les lettres de Madame de Bargeton, en fit un paquet, le posa sur la table, et avant de lui écrire, il se mit à penser à cette fatale semaine. Il ne se dit pas qu'il avait, lui, le premier étourdiment, renié son amour, sans savoir ce que deviendrait sa Louise à Paris. Il ne vit pas ses torts. Il vit sa situation actuelle. Il accusa Madame de Bargeton. Au lieu de l'éclairer, elle l'avait perdue. Il se courroussa, il devint fier et se mit à écrire la lettre suivante dans le paroxysme de sa colère. Que diriez-vous, madame, d'une femme qui aurait plu à quelque pauvre enfant timide, plein de ces croyances nobles que plus tard l'homme appelle des illusions, et qui aurait employé les grâces de la coquetterie, les finesses de son esprit et les plus beaux semblants de l'amour maternel pour détourner cet enfant ? Quand vous lirez cette lettre, vous aurez le souvenir en votre pouvoir, libre à vous de tout oublier. Après les belles espérances que votre doigt m'a montrées dans le ciel, j'aperçois les réalités de la misère dans la boue de Paris. Oui, madame, grâce à vous, il ne me reste rien. Rien ? N'est-ce pas ce qui a servi à faire le monde ? Le génie doit imiter Dieu. Je commence par avoir sa clémence sans savoir si j'aurai sa force. Et je vous plains de ne pouvoir plus rien être à la gloire vers laquelle je vais tendre, conduit par le travail. Après avoir écrit cette lettre emphatique, mais pleine de cette sombre dignité que l'artiste de 21 ans exagère souvent, Lucien se reporta par la pensée au milieu de sa famille. Il revit le joli appartement que David lui avait décoré en y sacrifiant une partie de sa fortune. Il eut une vision des joies tranquilles, modestes, bourgeoises qu'il avait goûtées. Les ombres de sa mère, de sa sœur, de David vinrent tourner autour de lui, il entendit de nouveau les larmes qu'ils avaient versées au moment de son départ, et il pleura lui-même, car il était seul dans Paris, sans amis, sans protecteur. Le soir même, il trouve refuge dans un restaurant populaire, chez Fliconeau. Cette cantine devint vite un lieu familier. On n'y mange pas trop cher et surtout on y rencontre toutes sortes de gens. Lucien est notamment intrigué par un homme qui déjeune toujours seul, mais il ne parvient jamais à l'approcher. Les journées se suivent et se ressemblent. Logé dans la chambre miteuse d'un hôtel dans le quartier de Cluny, Lucien va à la rencontre des libraires et tente de vendre son manuscrit. Mais aucun d'eux ne le prend au sérieux. Dans son errance à travers la ville, il rêve toujours de gloire et rencontre un compagnon d'infortune, Daniel d'Arthez, qui le prend sous son aile. Poète, lui aussi, il introduit Lucien dans son cénacle et lui présente de jeunes écrivains sans le sou, mais bons et loyaux. Au sein de ce nouveau cercle d'amis, Lucien retrouve un peu d'espoir. David, toujours à Angoulême, lui écrit de temps en temps, l'encourageant à persévérer. Un jour, le hasard l'amène à croiser l'homme de chez Flicono. Il l'aborde enfin. L'inconnu s'appelle Étienne Lousteau. Il travaille dans la presse et persuade Lucien d'abandonner ses illusions d'écrivain pour se consacrer au journalisme. C'est là qu'il pourra se faire un nom et surtout gagner de l'argent. Lucien découvre alors un monde souterrain. Aux côtés de Lousteau, il est invité à toutes les festivités et rencontre une jeune actrice ambitieuse, Coralie, qui le pousse à devenir méchant pour se faire respecter. Amoureux et plein d'énergie, il écrit son premier article et se fait remarquer. Du jour au lendemain, il est salué, sollicité et retient même l'attention de ceux qui l'avaient auparavant ignoré. Lucien vécut au jour le jour, dépensant son argent à mesure qu'il le gagnait, ne songeant point aux charges périodiques de la vie parisienne, si écrasante pour ses bohémiens. Sa mise et sa tournure rivalisaient avec celles des dandys les plus célèbres. Coralie aimait, comme tous les fanatiques, apparaître son idole. Elle se ruina pour donner à son cher poète cet élégant mobilier des élégants qu'ils avaient tant désiré pendant sa première promenade aux Tuileries. Lucien eut alors des cannes merveilleuses, une charmante lorgnette, des boutons en diamant, des anneaux pour ses cravates du matin, des bagues à la chevalière, enfin des gilets mirifiques en assez grand nombre pour pouvoir assortir les couleurs de sa mise. Il passa bientôt dandy. Le jour où il se rendit à l'invitation d'un diplomate allemand, sa métamorphose excita une sorte d'envie contenue chez les jeunes gens qui s'y trouvèrent et qui tenaient le haut du pavé dans le royaume de la fashion. Les hommes du monde sont jaloux entre eux à la manière des femmes. La comtesse de Montcornet et la marquise d'Espard, pour qui le dîner se donnait, eurent Lucien entre elles et le comblèrent de coquetterie. « Pourquoi donc avez-vous quitté le monde ?» lui demanda la marquise. « Il était si disposé à vous bien accueillir, à vous fêter. » « J'ai une querelle à vous faire. Vous me deviez une visite. Et je l'attends encore. Je vous ai aperçu l'autre jour à l'opéra. Vous n'avez pas daigné venir me voir ni me saluer. Votre cousine, Madame de Bargeton, m'a si positivement signifié mon congé. Vous ne connaissez pas les femmes, » répondit la marquise d'Espard en interrompant Lucien. « Vous avez blessé le cœur le plus angélique et l'âme la plus noble que je connaisse. » Vous ignorez tout ce que Louise voulait faire pour vous et combien elle mettait de finesse dans son plan. « Oh, elle eut réussi, » fit-elle à une muette dénégation de Lucien. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» répondit Lucien. « Eh, mon Dieu, c'est moi qui ai donné le conseil de ne pas vous mettre dans sa confidence. Tenez, entre nous, en vous voyant si peu fait au monde, je vous craignais. » J'avais peur que votre inexpérience, votre ardeur étourdie, ne détruise ou ne dérangeasse ces calculs. Pouvez-vous maintenant vous souvenir de vous-même ? Avouez-le, vous seriez de mon opinion en voyant aujourd'hui votre sosie. Vous ne vous ressemblez plus. Vous vous êtes métamorphosé si promptement, vous vous êtes si facilement initié aux façons parisiennes que je ne vous ai pas reconnu au Bois de Boulogne il y a un mois. Lucien écoutait cette grande dame avec un plaisir inexprimable. Elle joignait à ses paroles flatteuses un air si confiant, si mutin, si naïf. Elle paraissait s'intéresser à lui si profondément qu'il crut à quelque prodige. Depuis cet heureux soir, tout le monde lui souriait et il attribuait à sa jeunesse une puissance talismanique. Mais cette période de plénitude est éphémère. En refusant le chemin de la précarité littéraire que d'Arthez lui proposait de prendre et en acceptant celui plus facile des succès immédiats, Lucien a pris un risque qui va lui coûter cher. Victime de ses contradictions, il s'est rapproché du parti royaliste, dépense plus d'argent qu'il n'en a et se fait beaucoup d'ennemis. Averti du danger par ses anciens amis du Cénacle, Lucien ne veut écouter personne. Il entend bien, avec Coralie, profiter de sa notoriété. Un jour, il apprend que le livre de son ancien compagnon, Daniel d'Arthez, est enfin publié. Il est chargé par Lousteau et les autres rédacteurs de journaux parisiens d'écrire un article à charge contre cet ouvrage. Et il n'a pas le choix. Ce n'est plus une question de littérature, mais de politique. Le livre d'Arthez devait être échiné, selon le mot classique. Lucien refusa de faire l'article. Ce refus excita le plus violent scandale parmi les hommes considérables du parti royaliste venus à ce rendez-vous. On déclara nettement à Lucien qu'un nouveau converti n'avait pas de volonté. S'il ne lui convenait pas d'appartenir à la monarchie et à la religion, il pouvait retourner à son premier camp. Merlin et Martinville le prirent à part et lui firent amicalement observer qu'il livrait Coralie à la haine que les journaux libéraux lui avaient vouée et qu'elle n'aurait plus les journaux royalistes et ministériels pour se défendre. L'actrice allait donner lieu sans doute à une polémique ardente qui lui vaudrait cette renommée après laquelle soupirent toutes les femmes de théâtre. Lucien se vit forcé d'opter entre d'Arthez et Coralie. Sa maîtresse était perdue s'il n'égorgeait pas d'Arthez dans le grand journal. Le pauvre poète revint chez lui la mort dans l'âme. Il s'assit au coin du feu dans sa chambre et lit ce livre, l'un des plus beaux de la littérature moderne. Il laissa des larmes de page en page, il hésita longtemps, mais enfin il écrivit un article moqueur, comme il savait si bien en faire. Il prit ce livre comme les enfants prennent un bel oiseau pour le déplumer et le martyriser. En relisant cette belle œuvre, tous les bons sentiments de Lucien se réveillèrent. Il traversa Paris à minuit, arriva chez d'Arthez, vit à travers les vitres trembler la chaste et timide lueur qu'il avait si souvent regardée avec les sentiments d'admiration que méritait la noble constance de ce vrai grand homme. Il ne se sentit pas la force de monter. Il demeura sur une borne pendant quelques instants. Enfin, poussé par son bon ange, il frappa, trouva d'Arthez lisant et sans feu. « Que vous arrive-t-il ? » dit le jeune écrivain en apercevant Lucien et devinant qu'un horrible malheur pouvait seul le lui amener. « Ton livre est sublime !» s'écria Lucien, les yeux pleins de larmes. « Et ils m'ont commandé de l'attaquer. » « Pauvre enfant, tu manges un pain bien dur, » dit d'Arthez. « Je ne vous demande qu'une grâce. Gardez-moi le secret sur ma visite et laissez-moi dans mon enfer à mes occupations de damné. Peut-être ne parvient-on à rien sans s'être fait des calus aux endroits les plus sensibles du cœur. Me croyez-vous un lâche ? Non, d'Arthez, non. Je suis un enfant ivre d'amour. » Et il lui expliqua sa position. « Voyons l'article, » dit d'Arthez, ému par tout ce que Lucien venait de lui dire de Coralie. Lucien tendit le manuscrit. D'Arthez le lut et ne put s'empêcher de sourire. « Quel fatal emploi de l'esprit !» s'écria-t-il. Mais il se tut en voyant Lucien dans un fauteuil, accablé d'une douleur vraie. « Voulez-vous me le laisser corriger ? Je vous le renverrai demain, » reprit-il. La plaisanterie déshonore une œuvre, une critique grave et sérieuse et parfois un éloge. « Je saurais rendre votre article plus honorable, et pour vous, et pour moi. D'ailleurs, moi seul, je connais bien mes fautes. En montant une côte aride, on trouve quelquefois un fruit pour apaiser les ardeurs d'une soif horrible. Ce fruit, le voilà, » dit Lucien qui se jeta dans les bras de d'Arthez. Il pleura, il lui baisa le front en disant « Il me semble que je vous confie ma conscience pour me la rendre un jour. » Le geste de d'Arthez ne suffit pas à sauver son ami. Malgré la critique à charge contre son livre, Coralie est attaquée par le camp de Lucien. Désemparé, il doit consoler celle qu'il aime et tenter de la préserver d'un scandale devenu public. Provoqué en duel par un ancien camarade du Cénacle, il est blessé à la poitrine. Affaibli, ruiné, isolé, Lucien observe désormais sa vie comme un mauvais rêve. Même son roman, qu'il était finalement parvenu à faire éditer à force de relations et de manigances, n'a pas rencontré le moindre succès. Fini les fastes des grands dîners parisiens, Lucien, de nouveau miséreux, retourne manger chez Fliconneau, là où tout avait commencé. Là-bas, il croise Lousteau et une autre connaissance, Claude Vignon, qu'il salue en quittant le restaurant. La poignée de main que Lucien donna au seul journaliste qui ne lui avait pas été hostile fut accompagnée d'un horrible serrement de cœur. « Que faire ? » lui demanda-t-il. « À la guerre comme à la guerre, » lui dit le grand critique. « Votre livre est beau, mais il vous a fait des envieux. Votre lutte sera longue et difficile. Le génie est une horrible maladie. Tout écrivain porte en son cœur un monstre qui, semblable au ténia dans l'estomac, y dévore les sentiments à mesure qu'ils y éclosent. Qui triomphera ? La maladie de l'homme ou l'homme de la maladie ? Certes, il faut être un grand homme pour tenir la balance entre son génie et son caractère. Le talent grandit, le cœur se dessèche. À moins d'être un colosse, à moins d'avoir les épaules d'Hercule, on reste ou sans cœur ou sans talent. Vous êtes mince et fluet, vous succomberez. Lucien revint chez lui en méditant sur cet horrible arrêt dont la profonde vérité lui éclairait la vie littéraire.
Balzac veut décrire naturellement la société de son temps, mais pourquoi veut-on décrire la société de son temps ?
Michel Butor.
Parce que, à première vue, décrire des choses que tout le monde connaît, ça n'a pas de sens. Alors, il veut décrire la situation de son temps parce qu'il a l'impression que personne ne connaît. Les gens se trouvent au milieu d'une réalité qui n'est pas celle qu'ils croient. Donc, il faut absolument pour lui enlever les voiles, déchirer les voiles. Nous nous trouvons, les gens de cette époque-là se trouvaient à l'intérieur d'un monde d'illusions. Ils se trouvaient pas à l'intérieur de la réalité. Ils se trouvaient à l'intérieur d'une chimère, si vous voulez, avec des parties réelles et puis des parties qui était complètement faussé. Et c'est ça qu'il veut essayer d'arranger. Donc, il veut révéler aux gens de 1830-1840, il veut révéler aux gens ce qu'ils ont en face des yeux.
La mort brutale de Coralie, qui succombe à une maladie, vient ajouter à son malheur. Il parvient à réunir un peu d'argent, mais pas assez pour payer les traites de son appartement, désormais vide. Tous ses meubles ont été saisis. Avec Bérénice, la femme de chambre de Coralie, ils tentent de survivre comme ils peuvent. Lucien demeura seul jusqu'au coucher du soleil, sur une colline d'où ses yeux embrassaient Paris. « Par qui serais-je aimé ?» se demanda-t-il. « Mes vrais amis me méprisent. » Quoi que j'eusse fait, tout de moi semblait noble et bien à celle qui est là. Je n'ai plus que ma sœur, David, et ma mère. Que pense-t-il de moi là-bas ? Le pauvre grand homme de province revint rue de la Lune, où ses impressions furent si vives en revoyant l'appartement vide qu'il alla se loger dans un méchant hôtel de la même rue. Il passa dans un accablement maladif. Il ne pouvait ni écrire ni penser. Il se laissait aller à la douleur. Bérénice eut pitié de lui. « Si vous retournez dans votre pays, comment irez-vous » répondit-elle à une exclamation de Lucien qui pensait à sa sœur et à David Séchard. « À pied ? » dit-il. « Encore faut-il pouvoir vivre et se coucher en route. Si vous faites 12 lieues par jour, vous avez besoin d'au moins 20 francs. »« Je les aurai, » dit-il. Il prit ses habits et son beau linge, ne garda sur lui que le strict nécessaire, et alla chez sa Manon qui lui offrit 50 francs pour toute sa défroque. Il supplia l'usurier de lui donner assez pour prendre la diligence. Il ne put le fléchir. Dans sa rage, Lucien monta d'un pied chaud à Frascati, tenta la fortune et revint sans un liard. Quand il se trouva dans sa misérable chambre, rue de la Lune, il demanda le châle de Coralie à Bérénice. À quelques regards, la bonne fille comprit, d'après l'aveu que Lucien lui fit de la perte au jeu, quel était le dessein de ce pauvre poète au désespoir. Il voulait se pendre. « Êtes-vous fou, monsieur ? » dit-elle. « Allez-vous promener et revenez à minuit. J'aurai gagné votre argent. Mais restez sur les boulevards, n'allez pas vers les quais. » Lucien se promena sur les boulevards, hébété de douleur, regardant les équipages, les passants, se trouvant diminué, seul, dans cette foule qui tourbillonnait, fouettée par les 1000 intérêts parisiens. En revoyant par la pensée les bords de sa Charente, il eut soif des joies de la famille. Il eut alors un de ces éclairs de force qui trompent toutes ses natures à demi féminines. Il ne voulut pas abandonner la partie avant d'avoir déchargé son cœur dans le cœur de David Séchard et pris conseil des 3 anges qui lui restaient. En flânant, il vit Bérénice endimanchée causant avec un homme sur le boueux boulevard Bonne Nouvelle où elle stationnait au coin de la rue de la Lune. « Que fais-tu ? » dit Lucien, épouvanté par les soupçons qu'il conçut à l'aspect de la Normande. « Voilà 20 francs qui peuvent coûter cher, mais vous partirez, » répondit-elle, en coulant 4 pièces de 100 sous dans la main du poète. Bérénice se sauva, sans que Lucien pût savoir par où elle avait passé. Car, il faut le dire à sa louange, cet argent lui brûlait les mains, et il voulait le rendre. Mais il fut forcé de le garder comme un dernier stigmate de la vie parisienne. À Angoulême, David a tenté de moderniser l'imprimerie selon ses idées. Mais la concurrence est rude et le jeune homme a dû faire face aux manœuvres des frères Cointet qui ont tout fait pour l'empêcher de réaliser ses projets. Pendant que Lucien tentait sa chance à Paris, David tentait, tant bien que mal, de nourrir sa famille. Il n'est pas parvenu à faire fortune. Ève, lui et leur enfant vivent dans la pauvreté la plus totale. Lucien leur écrit pour les prévenir de son retour prochain et arrive à Angoulême un matin. En gravissant la rampe de la porte Palais, Lucien éprouva l'influence de l'air natal. Il ne sentit plus le poids de ses infortunes et se dit avec délices « Je vais donc les revoir ». Il atteignit la place du Mûrier sans avoir rencontré personne. Un bonheur qu'il espérait à peine, lui qui jadis se promenait en triomphateur dans sa ville. Puis il revit le vieil atelier et la vieille cour. Il trouva dans l'escalier sa sœur et sa mère. Et ils s'embrassèrent en oubliant pour un instant tous les malheurs de cette étreinte. En famille, on compose presque toujours avec le malheur. On s'y fait un lit et l'espérance en fait accepter la dureté. Si Lucien offrait l'image du désespoir, il en offrait aussi la poésie. Le soleil des grands chemins lui avait bruni le teint. Une profonde mélancolie empreinte dans ses traits jetait ses ombres sur son front de poète. Ce changement annonçait tant de souffrance qu'à l'aspect des traces laissées par la misère sur sa physionomie, le seul sentiment possible était la pitié. L'imagination partie du sein de la famille y trouvait au retour de tristes réalités. Ève eut au milieu de sa joie le sourire des saintes au milieu de leur martyre. Le chagrin rend sublime le visage d'une jeune femme très belle. La gravité qui remplaçait dans la figure de sa sœur la complète innocence qu'il avait vue à son départ pour Paris parlait trop éloquemment à Lucien pour qu'il n'en reçût pas une impression douloureuse. Aussi, la première effusion des sentiments, si vive, si naturelle, fut-elle suivie de part et d'autre d'une réaction. Chacun craignait de parler. Madame Chardon resta blême et en apparence impassible. Ève se leva, descendit pour épargner à son frère un mot dur et alla dire à la domestique « Mon enfant, Lucien aime les fraises. Il faut en trouver. » « Lucien, » dit pendant ce temps Madame Chardon à son fils, « tu as beaucoup à réparer ici. Parti pour être un sujet d'orgueil pour ta famille, tu nous as plongés dans la misère. » Il se fit une pause effrayante et le silence de Lucien impliqua l'acceptation de ses reproches maternels. « Je ne te blâme pas d'avoir tenté de faire revivre la noble famille d'où je suis sorti. » Mais à de telles entreprises, il faut avant tout une fortune et des sentiments fiers. Tu n'as rien eu de tout cela. Tu as détruit la paix de cette famille travailleuse et résignée qui cheminait ici dans une voie difficile. Aux premières fautes, un premier pardon est dû. Ne recommence pas. Sois prudent. Écoute ta sœur. Vous pouviez être plus sévère, dit Lucien en embrassant sa mère. J'accepte votre pardon parce que ce sera le seul que j'aurai jamais à recevoir. Ève revint et à la pose humiliée de son frère, elle comprit que Madame Chardon avait parlé. Sa bonté lui mit un sourire sur les lèvres auquel Lucien répondit par des larmes réprimées.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Julie Garraud à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Valérie Bourg. Bonsoir et à la semaine prochaine.